Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouveau podcast de Chute, Rôle Modèle, saison 2.
Vous écoutez Chute Radio.
Chute Radio.
Qui est votre rôle modèle ?
Cette question, nous la posons à chaque entretien de Chute Magazine. Les premiers rôles modèles, ce sont celles et ceux de notre quotidien, nos mères, nos pères, nos proches. Ce sont aussi ceux et celles qui sont nos voisins, nos voisines, qui nous ressemblent, un peu de près ou de loin, qui nous donnent le sentiment que c'est possible, que la porte peut être ouverte.
C'est Chute.
Les rôles modèles, ce sont aussi ceux et celles qui sont allés encore plus loin, parfois dans les étoiles ou pas bien loin, et qui nous inspirent et qui nous donnent le sentiment que rien n'est impossible. Nous avons souhaité les entendre tous et toutes, entendre ces voix multiples qui nous aident à monter les marches, jour après jour. Pour cette nouvelle saison, Rôle Modèle revient avec le soutien d'Elisabeth Moreno, ministre déléguée à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la diversité et à l'égalité des chances de 2020 à 2022. Femme politique, femme de la tech, femme d'engagement, elle fait entendre avec nous ses voix, femmes comme hommes, qui œuvrent jour après jour pour donner un vrai sens au terme « égalité des chances ». Il y a des colères qui s'enseignent, qui vous guident et vous poussent à ne pas rester sur le bas-côté à attendre que la caravane passe. Aude de Thuin, fondatrice du Women's Forum ou encore du Forum Women in Africa, s'est laissée guider par cette colère de justice en créant Systémique pour plus de femmes dans les STEM, c'est-à-dire les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Face aux chiffres qui laissent entrevoir une précarisation annoncée des femmes dans un monde où tous les métiers de demain seront liés de près ou de loin aux sciences et technologies, Aude de Thuin souhaite participer à changer la donne. Elle répond aux questions d'Elisabeth Moreno au micro de Chute Magazine, le magazine de la culture numérique.
Madame Aude de Thuin, Aude, c'est une vraie joie pour moi d'être assise ici en face de toi et d'avoir une conversation que je rêve d'avoir depuis que je t'ai rencontrée. Depuis que j'ai rencontré cette grande dame que tu es, on se connaît, je crois, depuis une dizaine d'années. La première fois que je t'ai rencontrée, c'était en Afrique. Et tu me parlais de Women in Africa, alors qu'on aurait pu avoir 150 opportunités. C'est Chute qui nous donne cette chance au travers de ce podcast. Et tiens-toi prête, parce que j'ai à peu près un millier de questions à te poser. Tu as fait énormément de choses. On va parler de ce que tu as fait par le passé, de ce que tu as fait pour permettre aux femmes de réussir, de s'émanciper, de s'accomplir, de se réaliser. On va parler de toi en tant que femme engagée. On va parler de toi en tant que femme en colère. On va parler de toi en tant que femme inspirante. Bref, on va parler de toi en tant que femme rôle modèle. Et commençons par ce qui se passe aujourd'hui. Tu as toujours été extrêmement impliquée sur les questions de l'égalité entre les femmes et les hommes. Tu as d'ailleurs une ribambelle de citations dont tu nous abreuves régulièrement. Mais c'est de Systémique que j'ai envie qu'on parle là tout de suite maintenant. Parce que tu as eu cette idée, tu fais partie de ces femmes qui ont un nombre d'idées incalculables à la minute. Et tu as décidé de créer Systémique pour qu'on ait davantage de jeunes femmes qui s'intéressent au monde des sciences et des technologies. C'est un point commun que nous partageons. Il y a à peine 30% de femmes dans la tech aujourd'hui, alors qu'elles étaient là, au début de l'histoire, qu'elles ont contribué à rendre l'informatique cet outil extraordinaire qu'il est aujourd'hui, pour le meilleur et pour le pire. Raconte-moi cette aventure Systémique.
Eh bien, Systémique est née, comme toujours, souvent chez moi, d'une colère. Pour les mêmes raisons, tu te souviens que j'ai créé le Women's Forum parce que je n'avais pas pu aller à Davos. Et quand j'ai pris conscience qu'il y avait 4% de femmes, là, ça m'a mise en colère. Et là, j'en ai une très grosse, encore cette fois-ci, qui est née de la lecture un matin des Échos, comme je fais tous les jours, Et je vois une belle photo de 7 jeunes hommes, très très bien, tous mêmes études, même tailleur, même coiffeur, je pense, qui avaient levé 7 millions d'euros pour une boîte d'intelligence artificielle sur le cancer du sein. Je me suis dit, cancer du sein, les femmes, ça, c'est incroyable, quoi, qu'il n'y en ait pas. Et je décide, je suis très peu sur les réseaux sociaux, mais de temps en temps, je poste quand je suis en colère, d'ailleurs, ou quand j'ai une jolie histoire à raconter. Et enfin, ce n'est pas une chose usuelle pour moi. Et je poste la photo de ces 7 garçons et je mets au-dessus de la photo « chercher l'erreur ». Et le lendemain, je reçois un message d'un des 7 qui dit « Ah, vous avez raison, on avait une femme, on a oublié de la mettre sur la photo ». Je me dis « Oula, il ne s'arrange pas, lui ». C'est quand même incroyable, quoi. C'est de l'inconscience. Et j'ai eu 190 000 vues sur ce post. Alors, je suis devenue une star pour mes petits-enfants uniquement. Ça s'est arrêté.
Non, tu exagères, pas uniquement.
En tout cas, ça les a marqués. Et je me suis mise à étudier ce sujet des femmes dans l'intelligence artificielle, puisque je savais que le confinement avait provoqué deux choses. D'un côté, un recul qui s'est révélé incroyable des femmes, de leurs envies de grandir dans le monde du travail, d'aller plus loin, tellement elles avaient subi le confinement, puisque ce que moi j'ai fait comme étude, que j'ai appelé le phénomène de la salle à manger, fait que 80% des hommes travaillaient sur la table de la salle à manger dans les appartements où il n'y a pas toujours de bureau, bien sûr, ce qui voulait dire que les femmes étaient dans la cuisine ou dans la chambre. Donc, d'un côté, un recul incroyable des femmes. Et de l'autre côté, en 2 ans, une accélération incroyable des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle, parce que ce confinement avait obligé à cela. C'est dans la logique même des choses. Et donc, ça voulait dire qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes dans l'intelligence artificielle. Conclusion, c'est un monde. Le risque, c'est que le monde se réécrive au masculin. Et là, la colère est montée. Donc, je voyais mon mari et ma fille qui disaient « Oh là là, elle ne va quand même pas créer une société encore, puisque j'ai toujours Women in Africa qui marche bien et qui se développe sur le continent. » Et j'ai vraiment, la colère me dominait, c'est-à-dire que je n'arrivais pas à rester sur cette situation, sur ce constat que je faisais, que le monde se réécrivait au masculin.
Mais la colère est saine quand elle permet de passer à l'action pour réduire les injustices et les inégalités.
Oui, je crois. Je crois qu'elle est saine. Dans mon cas, elle l'a souvent été. C'est une colère productive, finalement. Et je crois que ces colères sont nécessaires, justement, parce qu'elles expriment des choses et que c'est bien d'exprimer les choses, tout simplement. Et moi, je le fais comme je sais le faire, c'est-à-dire en créant quelque chose. Et pour les femmes en particulier, voilà comment est née Systémique.
L'aventure entrepreneuriale, tu la connais bien.
Ah oui, j'ai commencé à 22 ans.
Tu as commencé à entreprendre à 22 ans. Avec cette expérience que tu as de l'entrepreneuriat, de la création d'entreprises, qui fait rêver beaucoup de femmes, quelles sont les 3 leçons majeures que tu as apprises de l'entrepreneuriat, que tu as apprises de l'entrepreneuriat?
La première, c'est que nous, les femmes, souvent, on a peur. On a peur d'y aller, on a peur de se lancer. Alors moi, j'ai connu les époques où les femmes avaient plus peur que maintenant. Et j'ai vu la progression. J'ai vu les femmes grandir dans leurs projets lorsqu'elles allaient le présenter aux banques et tout ça. Mais je constate une deuxième chose, c'est que quand une femme lance un projet... à projet égal, elle est beaucoup moins ambitieuse que les hommes, pour un projet identique. Et ça, c'est une chose qui ne cesse de... Enfin, qui m'interroge toujours, parce que ça signifie beaucoup de choses de l'état, de la situation psychologique des femmes, toujours. Et il n'y a pas beaucoup d'évolution sur ce plan-là. La troisième chose, c'est que les femmes vont trop souvent dans des secteurs où on les attend, et qu'elles n'osent pas aller plus loin. Elles n'osent pas créer des entreprises, particulièrement justement dans ces métiers d'aujourd'hui, parce qu'il faut savoir que 8 métiers sur 10 ont changé dans les 5 ans qui viennent, 5-10 ans qui viennent. On y est, on est dans la transformation et la mutation du monde. Et les femmes n'y vont pas. Elles continuent à ne pas y aller assez nombreuses. D'où cette réécriture du monde masculin. Et ça, c'est grave. C'est grave parce que on ne peut pas laisser les choses comme ça. Et donc, toutes les initiatives, c'est pour ça que j'étais heureuse de parler de ça aussi ce matin avec toi, Elisabeth, parce que tu connais le sujet, tu as été confrontée à ça souvent dans ta vie, le sujet de savoir attirer des femmes et donc de parler aux entreprises, aux grandes entreprises, parce qu'il y a le sujet de la création d'entreprises, bien sûr, mais il y a aussi le sujet des femmes à l'intérieur des grandes entreprises. Et autant s'est battu pour la parité, pour les quotas. Moi, au départ, j'étais contre les quotas parce que j'étais pour la compétence. Mais je me souviens d'une étude que j'avais menée lorsque je présidais le Women's Forum. On aurait mis plus de 500 années à y arriver. C'était juste dingue. Bon, cela étant, ce qu'il y a de consolant, c'est qu'en Italie, c'était plus de 900. Mais pour autant, il fallait qu'il y ait des quotas. Parce qu'à un moment, il faut savoir forcer les choses. Et on voit bien le résultat que ça a donné. Et puis, il y a la loi Rixin après. Donc, c'est là où il vaut toujours mieux éviter de légiférer et de le faire de façon naturelle. Mais si, à un moment, on est obligé de le faire, il faut y aller. Parce qu'il faut forcer les femmes à se dépasser. Elles en ont le talent. On a le même cerveau. C'est ce qu'il faut dire aux filles. On a le même cerveau que les mecs. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'y va pas? Pourquoi est-ce que vous n'y allez pas?
Pourquoi n'y allez-vous pas, jeune fille? Vous avez du talent, vous avez du savoir-faire, de la compétence et de l'ambition. Faites-vous confiance et osez.
Oui.
Osez vous faire confiance. Mais parfois, on se fait confiance. Parfois, on a envie. Mais le système est plus fort que nous.
C'est vrai.
Est-ce que tu as des hommes qui t'ont aidé à réussir dans ta vie? Le premier, c'est ton homme à toi.
Oui.
Ton mari a toujours été à tes côtés dans toutes tes aventures, et pour le meilleur et pour le pire.
Et j'ai même une anecdote là-dessus maintenant, qui vient de m'arriver. Parce que Systémique me prend un temps fou. Évidemment, j'ai une toute petite équipe. On vit entre Paris et le Maroc. Et il y a 15 jours à peu près, on se téléphone 3 fois par jour au minimum. Et il me dit, tu as quelque chose à dîner ce soir? Je lui dis, non, j'ai pas le temps, je vais me débrouiller. Et je reçois un appel d'une boîte à 5 heures qui me dit, on a une livraison pour vous, votre mari a passé une commande du Maroc à Paris, première chose. Donc j'avais de quoi dîner, et puis je fais réchauffer ce qu'il fallait, et je pars dans mon bureau travailler, et tout d'un coup, les alarmes de l'appartement se déclenchent, j'avais tout oublié sur la plaque, et donc... J'ai failli pas mettre le feu, mais enfin, ça a déclenché quand même. Donc, tous les voisins alertés et tout ça. Et le pire, c'est que je ne savais pas éteindre l'alarme non plus. Donc, j'ai rappelé mon mari au Maroc. Enfin, c'est des situations. Et donc, il m'a dit, OK, je reviens à Paris et je vais t'aider. Voilà, ça montre effectivement son soutien indéfectible depuis toujours. Je lui fais peur aussi, parfois, avec mes idées.
Tes prises de risque.
Oui, oui, bien sûr. Et il en a pris aussi à mes côtés. Donc...
On fait partie toutes les deux des femmes qui pensons que ces questions d'égalité ne se résoudront pas qu'avec la moitié de la planète et que nous devons y travailler ensemble pour y parvenir. Et moi, je me réjouis de voir... Moi, j'ai travaillé dans des environnements très masculins, que ce soit le bâtiment ou la tech, et même la politique. Et j'ai souvent eu des hommes qui m'ont accompagnée dans ce parcours. Et je veux saluer le témoignage de Jérémy Batillot, qui est l'un des parrains du programme que nous créons avec le 8 mars, la puissance du lien. Parce que, encore une fois, c'est ensemble que nous réussirons ces combats extrêmement importants.
J'ai accepté d'être parrain de l'événement 8 mars, la puissance du lien, parce que je suis convaincu par le message que porte Elisabeth Moreno. Je suis convaincu qu'ensemble, on peut recréer du lien humain entre les individus et raviver des élans de solidarité, notamment professionnels. Je travaille chez LinkedIn et nous sommes bien placés pour savoir que le réseau professionnel est un atout dans une carrière, qu'il donne accès à des nouvelles opportunités. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. On a 4 fois plus de chances d'être embauché dans une entreprise quand on connaît déjà quelqu'un dans cette entreprise. Alors je suis venu à l'événement en tant que parrain pour accompagner une filleule et lui apporter des conseils, des contacts professionnels qui pourraient l'aider à faire avancer son projet d'entreprise ou sa recherche d'emploi. J'ai déjà été parrain, j'ai déjà coaché avec d'autres associations et je le fais aussi parce que je sais qu'en retour, cette filleule m'apportera son expérience, sa vision des choses, ses idées. J'espère qu'un jour c'est elle qui me donnera ses conseils. Alors, ça me prendra du temps mais je m'organiserai parce que j'en fais une priorité. J'ai aussi mobilisé 40 de mes collègues pour venir avec moi, parrainer, marrainer, également des siennes. Je pense qu'on a tous un rôle à jouer. Cette fois-ci, le mien, c'était de participer et de faire participer. Chez LinkedIn, je suis aussi responsable bénévole d'un projet qui s'appelle l'Alliance Un Réseau pour Tous, qui vise à lutter contre les inégalités de réseaux professionnels. Je travaille avec une équipe de 10 volontaires motivés, avec qui on rassemble les forces d'associations, d'écoles et d'entreprises pour aller plus vite. Depuis 2 ans, l'Alliance a aidé plus de 5500 bénéficiaires, femmes et hommes, jeunes et seniors, en leur donnant des conseils, en leur expliquant les codes professionnels et tout ce qui ne leur a pas été apporté par leur origine sociale, leur formation et le lieu où ils ont grandi. Le secteur de la tech est largement sous-représenté par les femmes et les choses avancent trop lentement. Je vous donne un exemple, dans un domaine dont on parle beaucoup en ce moment avec l'arrivée de ChatGPT. En France, il y a 5 ans, les femmes ne représentaient que 25% des actifs travaillant dans le domaine de l'intelligence artificielle. En 2022, la part des femmes n'a évolué que de 3 points, pour passer à 28%. Alors c'est pour ça que je suis ouvert à toutes les initiatives et tous les projets qui permettront de faire changer les choses. Parce que je sais qu'on peut construire une société équitable et mixte qui nous ressemble davantage. J'invite tout le monde à trouver le temps de participer.
Avant de t'intéresser profondément au sujet des femmes de la tech et des sciences, tu avais déjà apporté ta pierre à l'édifice, Aude, en créant le Women's Forum. Et tu étais déjà en colère à l'époque, et ça, tu vas encore nous le raconter. Mais est-ce que tu peux nous dire quel est ton regard? Ça fait maintenant plus de 2 décennies, je crois, que le Women's Forum existe, que tu te bats pour que les femmes trouvent leur place dans la société. On sait que les choses ont progressé. On sait que des phénomènes comme MeToo ont levé le voile sur des sujets qui étaient tabous pendant longtemps. Comment tu vois cette thématique évoluer dans la société aujourd'hui, en 2023?
Alors, c'est assez paradoxal, parce que d'un côté, il y a une évolution qui a été un peu forcée, effectivement, par les quotas, par MeToo. Les choses ne sont pas venues naturellement. Et on sent aussi une nouvelle génération de dirigeants et d'hommes qui, eux-mêmes, ont des femmes qui travaillent. Donc ça a beaucoup changé les choses. Moi, je me rappelle, à l'époque du Women's Forum, que j'ai créé à la suite d'une énorme colère aussi, qui était que j'avais tenté d'aller à Davos. On disait de Davos que c'était l'endroit où on pensait le monde de demain. Et j'ai essayé d'y aller en 2000, 2001, 2002. Aucune réponse. À l'époque, il n'y avait pas Internet, comme aujourd'hui. Et lorsque j'ai appris qu'il y avait 4% de femmes et qu'on osait dire que c'était l'endroit où on pensait le monde de demain, alors là, j'ai eu une énorme colère, exactement comme celle que j'ai aujourd'hui pour Systémique. C'est le même niveau de colère. Plutôt bon signe, donc, pour Systémique. Et j'ai créé le Women's Forum parce que je pensais qu'il fallait justement donner la parole aux femmes pour penser le monde ensemble. C'était pas les femmes entre nous, parce que c'est pas la parité, elle est nécessaire, mais elle est surtout, c'est un équilibre du monde que nous souhaitons. C'est travailler avec les hommes, à équivalence avec les hommes, pour un monde plus équilibré. C'est ça mon souhait. C'est pas les femmes d'un côté et les hommes de l'autre, c'est ensemble, c'est comment on peut créer le monde ensemble et autrement. Comment est-ce qu'on peut avoir une vision? J'ai quelques anecdotes dont je pourrais parler tout à l'heure sur des créations de choses faites par des hommes qui ne prennent pas en compte ne serait-ce que la physiologie des femmes et qui de ce fait amène à ne serait-ce que les ceintures de sécurité. Si elles avaient été pensées par une femme pour
les
femmes
airbags.
Oui, ou les herbes, les femmes, elles ont des seins, puis quand elles sont enceintes, vous voyez, les ceintures de sécurité, ben, c'est juste pas comme il faudrait que ce soit. Et des anecdotes comme ça, on en a des dizaines et des dizaines. Non, je pense qu'il y a une nécessité, une urgence. Le problème que nous avons maintenant, parce que j'ai vu les choses évoluer, c'est qu'on arrive à une antagonisation de la relation homme-femme. Moi, j'entends beaucoup d'hommes dire qu'il n'y en a plus que pour les femmes. Quand j'entends ça, c'est... Alors, je dois maîtriser ma colère souvent, parce que sinon je sortirais des scuds, au même titre que j'en reçois, parce que m'est arrivé, c'était la dernière fois, c'était au MEDEF, lieu assez, je ne dirais pas machiste, mais bon, il y a un peu plus de femmes, ou en tout cas ils les invitent plus, parce qu'ils essaient tous aussi de... On met des femmes, hein, il en faut, ça ne veut pas dire que c'est sincère. Ça, c'est un autre phénomène. Et donc je suis arrivé au MEDEF, et je m'installe à une table, il y a 3 hommes qui me disent « Ah, c'est à cause de vous qu'on en est là ». Parce qu'il y avait eu le Women's Forum. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aujourd'hui que les entreprises ont du mal à recruter. Et ils s'obligent, et heureusement, à mettre à équivalence des CV hommes et femmes. C'est la moindre des choses, parce qu'avant, par facilité, on recrutait des hommes qu'on connaissait, ou c'est tout ce mouvement, ces réseaux d'hommes, puisque les femmes n'y allaient pas spontanément. Donc il n'y avait pas ces échanges nécessaires à observer où est-ce qu'on peut, et puis chercher où sont les femmes. Quand on sait qu'elles font des études jusqu'au bac, elles sont meilleures que les hommes dans les concours pour les écoles d'ingénieurs. Tout ça est une réalité, et pour autant, les phénomènes d'habitude sont ancrés profondément chez les hommes. Et c'est très difficile. Alors l'amélioration vient de la génération actuelle. Ce sont des hommes qui s'occupent de leurs enfants, des bébés, qui rêvent tous d'un congé, enfin pas tous, mais beaucoup d'un congé paternité, et c'est complètement normal. Donc il faut aussi que la loi et notre... qu'on accompagne tout ça, parce que c'est pas évident pour une entreprise, et je comprends.
La loi est importante, mais elle n'est pas suffisante. La première loi en faveur de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes date de 1972, et plus de 50 ans après, on oscille entre 15 et 20% d'écart salarial à responsabilité égale. Donc il y a encore beaucoup à faire. Et je suis complètement d'accord avec toi, les jeunes générations nous donnent beaucoup d'espoir, parce qu'il y a un changement de mentalité, parce qu'il y a beaucoup plus d'hommes qui vont s'occuper de leurs enfants, le fait que le gouvernement ait fait voter un congé de paternité pour permettre, mais beaucoup trop peu d'hommes veulent le prendre. Et moi, je suis particulièrement inquiète de ce baromètre qui a été publié par le Haut Conseil à l'égalité il y a quelques semaines, qui disait que des hommes entre 18 et 25 ans, je crois, estiment que pour se faire respecter, il faut être violent. Donc il y a une forme de paradoxe entre cette prise de conscience de ce que les femmes ne sont pas inférieures aux hommes et qu'elles méritent d'être traitées avec la dignité qui convient, mais d'un autre côté, on a le sentiment aussi de régresser sur certains sujets. Donc, est-ce que tu es confiante pour tes enfants, pour tes petits-enfants? Est-ce que tu penses que leur situation sera meilleure que la tienne, que la mienne? Ou est-ce que tu penses qu'il y a un backlash qui est préoccupant?
Si j'en juge par ma petite fille, ça sera mieux. Parce qu'elle, elle est révoltée. Elle est révoltée parce que, d'abord, elle était révoltée contre son frère. Ça a commencé comme ça, alors qu'ils ont été élevés de la même façon, tous les deux. Et c'est là aussi où je voulais rajouter, par rapport aux quotas et aux hommes à la parentalité, un point important, c'est que les dirigeants d'aujourd'hui ont des filles, justement.
Moi, c'est ils en avaient déjà à l'époque.
Oui, mais à l'époque, on vivait avec madame à la maison. Et la génération d'aujourd'hui, de dirigeants d'aujourd'hui, leur mère, et pour la plupart, était à la maison. Il y avait très peu de femmes qui travaillaient, encore moins qui créaient des entreprises. C'est aussi une question, donc il y a une question de génération. Et la génération d'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, ma petite fille, par exemple, qui a 18 ans, elles sont très différentes. Et elles ne veulent plus du passé, parce que ce qu'on a vécu, là récemment, il y a eu le Covid, et donc le confinement a changé complètement leur perception des choses. Et aujourd'hui, regarde ce qui se passe quand on cherche à recruter. Il y a une étude récemment, je crois que c'est la Harvard Business Review qui a fait cette étude sur les 90 jours. Ça veut dire quoi? Que quand un salarié rentre dans une entreprise et que il passe les 90 jours, on a de grandes chances de le garder. En dessous de 90 jours, on n'a aucune chance ou très peu de chance de le garder. Puisque ce sont aujourd'hui les salariés qui choisissent l'endroit
dans
où ils vont aller travailler. Et non pas l'inverse. Mmh. Et ça peut amener justement à un développement aussi de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que tous ces phénomènes cumulés créent une vraie mutation du monde, une mutation profonde et une mutation sur laquelle moi j'alerte les entreprises. Cela étant, je les alerte, mais elles en sont conscientes. Elles cherchent toutes à dire, mais comment on fait? C'est pour ça aussi que j'ai créé Systémique. Toutes les entreprises cherchent des femmes et sont prêtes à rentrer dans le capital de sociétés qui sont créées par des femmes. Et voilà, donc, dans une des recommandations que je fais, parce que je ne lis pas on est parti des femmes entrepreneurs pour arriver à ça. Les femmes entrepreneurs, moi, ce que je leur dis pour grandir très vite ou avoir une ambition, c'est de ne pas faire seule. C'est souvent les femmes ont cette habitude, ce qui est un de mes défauts aussi d'ailleurs, c'est de vouloir faire seul. Aujourd'hui, on ne crée pas une entreprise seule. Pourquoi ? Parce que ça va être un manque de confiance de la part du banquier. C'est pour des raisons très pratiques. Créer une entreprise, c'est solliciter les banques, c'est obtenir des crédits de campagne, c'est obtenir un soutien, et les banques sont là pour ça. Elles étaient. Aujourd'hui, c'est un peu différent pour les entrepreneurs. Et donc, le faire à plusieurs, et le faire avec des hommes aussi, justement, ça, c'est une chose que je recommande beaucoup, beaucoup aux jeunes qui veulent créer des entreprises, c'est de le faire hommes et femmes. Oui, ensemble, parce que c'est la perception et la sensibilité de chacun et les forces de chacun qui vont s'additionner au profit de l'entreprise.
Personne ne réussit seul. C'est tellement important de le rappeler. Et tu es bien placé pour le savoir parce que tu as créé plusieurs entreprises dans ta vie, mais tu n'es pas né dans une famille d'entrepreneurs. Tu débarques de ta belle Bretagne à l'âge de 22 ans. Tu arrives à Paris, tu quittes ta famille, tu quittes tes cinq frères et sœurs.
Non,
tes
non, que des sœurs.
Oui, tes cinq sœurs.
Parce qu'il faut savoir d'où vient ma colère. Elle vient de ça. Parce que j'ai cinq sœurs, enfin j'avais, il y en a une qui nous a quittés maintenant, mais j'avais cinq sœurs. Et à chaque fois, je suis la seconde. Et à chaque fois que ma mère mettait une fille au monde, elle s'excusait auprès de mon père. Et il m'a fallu des années d'analyse pour comprendre, accepter surtout. Parce que ça, j'avais compris très vite que donc, les femmes, c'était pas bienvenue. Et donc, j'ai grandi dans cette idée. Et toute ma colère et toute ma vie vient de ça et s'explique à l'aune de ça. Parce que à chaque fois, et je pense que si mon père n'était pas mort, on serait 12, parce qu'elle aurait continué. Parce qu'une famille bretonne sans garçon, c'est juste pas possible. Et donc, c'est d'une violence incroyable. Incroyable. Et j'avais une mère extrêmement difficile. Moi, j'ai toujours une tête de plus que les autres. Je suis née grande. Voilà, c'est comme ça. Le jour de ma communion solennelle, ce que je faisais avec ma sœur aînée, on avait 17 ou 18 mois d'écart, elle me dit « Baisse-toi, on ne voit que toi ». Comment est-ce qu'on peut se construire quand on a une mère qui ne mesure pas la violence de ses propos? Or, ma mère ne mesurait pas. Moi, je suis née dans une famille qui n'avait pas de culture, qui n'avait pas... Et en même temps, c'est une famille formidable. Moi, je suis très proche de mes sœurs. Très, très proche de mes sœurs. Et j'étais très proche de mon père, mais lui m'a quittée. Et donc, ma violence aussi vient de ça. Tout s'explique à un moment. Et ces douleurs qui ont été les miennes et qui continuent, ces souffrances, il m'arrive encore de repenser à ça. Mon père est mort à 29 janvier, et chaque 29 janvier, je suis perturbée, même en parlant maintenant, ça me perturbe encore. Mais du coup, ça a été un traumatisme que j'ai, contre lequel j'ai lutté en créant des entreprises. Parce que derrière, ce que j'ai vécu, c'est que mon premier job, je n'avais aucun respect pour l'homme qui dirigeait la boîte. Il n'avait pas d'éthique. Je ne savais pas ce que ce mot voulait dire à l'époque. Mais je l'ai quitté pour cette raison-là. Et il fallait que j'aie un job pour vivre, puisque je n'avais pas fait d'études, je ne savais rien faire. Et je suis rentrée dans une entreprise, et le bruit courait que j'étais là parce que j'étais la maîtresse du président. Ce qui était faux, ce qui était... Tout ça m'a marquée. Et puis après, la chance de ma vie, c'est que j'ai rencontré Françoise Dolto en étant standardiste dans un centre psychopédagogique. Et c'est là où j'ai commencé à mesurer mes fragilités, à mesurer comment on pouvait s'en occuper, parce que Françoise Dolto le faisait avec des enfants, qu'elle m'a autorisée à suivre certains travaux qu'elle menait. Je voyais ses livres avant qu'ils ne sortent, parce qu'elle m'avait un peu repérée comme étant un peu particulière. Mais c'est tout ça qui m'a construit. Et c'est pour ça que je fais ce que je fais aujourd'hui.
Tu me donnes énormément d'émotions, Aude, et merci de nous partager cette histoire, parce que tu viens de résumer en quelques mots un nombre important des préjugés que les femmes doivent vivre. Le fait de s'excuser de naître parce qu'on est fille... Le fait d'avoir à se battre pour prendre sa place et de nous renvoyer à ce que nous sommes et à ce que nous représentons. Le fait d'imaginer que pour réussir, il faut fatalement coucher. Et le fait de se battre parce qu'on sait qu'on a envie d'autre chose et parce que nos rêves nous portent ailleurs. Et le fait que des rencontres puissent changer notre destin. Et toi, ce qui a changé ton destin, c'est ta rencontre avec Françoise Dolto. Et quelle femme! Quelle femme.
Ouais, c'était exceptionnel et je continue. Enfin, je pense à elle presque tous les jours, encore. Comme après, j'ai rencontré Simone Veil, qui m'a demandé une chose incroyable. Elle m'a dit, c'était au moment du Women's Forum, elle me dit, Aude, le jour où je ne serai plus là, est-ce que vous pouvez vous occuper d'une femme que j'aime beaucoup, qui est une femme enseignante marocaine dans un lycée professionnel à Noisy-le-Sec. Et c'était il y a 11 ans, 12 ans. Et je m'en occupe, Samia est une de mes meilleures amies. Et je suis proche d'elle, je l'aide beaucoup parce que des femmes comme ça ont eu confiance en moi, ont eu confiance dans ma... Elles me savaient fragile, mais aussi créative. Tu vois tout ce paradoxe. Et souvent, c'est pas moi qui le fais, c'est mon mari qui me compare à quelqu'un de créatif. Souvent, les créateurs sont des ont de grandes fragilités. C'est exactement, je suis dans ce cas, et donc ça m'oblige à me battre encore plus, et donc à me dépasser. Et c'est en me dépassant que j'arrive à faire des choses comme le Women's Forum, ou comme Osons la France, enfin toutes les entreprises que j'ai créées, parce qu'à un moment, je ne mesure même pas que je suis dans la bagarre et dans outrepasser mes propres forces, parce que je n'ai aucune formation pour tout ce que je fais. Tout est instinctif, tout est aussi dans l'intuition profonde des choses, des intuitions qui se répètent et qu'à un moment, c'est mon mari qui m'a dit, j'ai remarqué que lorsque les intuitions se répétaient chez toi, lorsque tu en parlais trois fois, ça devenait quelque chose. C'est ce que je dis aux filles, écoutez vos intuitions, écoutez vos fragilités. Comme les hommes, on doit savoir écouter ça, mais on doit fabriquer ce qu'on est avec ça. Et ça, c'est important.
Quel cadeau tu nous fais là. Quel magnifique cadeau tu nous fais là. Certains te voient comme une grande femme forte, courageuse, bourgeoise, celle qui tout a réussi.
Et
tu nous partages là tes fragilités, et tu nous partages tes doutes, tu nous partages tes questionnements. Et je trouve que c'est merveilleux de dire aux femmes qui nous écoutent que nous sommes tout ça à la fois. Moi, je me suis beaucoup battue pour l'empowerment des femmes, mais nous ne sommes pas obligés d'être en permanence dans cet état de force, de lutte et de combat. On peut accepter aussi nos fragilités, nos faiblesses, parce qu'elles font partie de nous. Et c'est en se respectant et en s'écoutant qu'on trouve notre chemin. Et je trouve que tu es bel exemple de ça.
Moi, je parle beaucoup de ça. Je suis le meilleur fournisseur de psy de Paris. C'est à un moment, quand on est fragile, quand on le sait, il ne faut pas qu'on fasse supporter ces fragilités à notre famille. Moi, j'ai un mari formidable depuis 34 ans. J'ai une fille, j'ai des petits-enfants. Ils connaissent ma fragilité. Et pour ne pas leur faire supporter... Mais ce n'est pas des états d'âme, mais les moments down, et j'en ai beaucoup, et des doutes. Alors, la phrase d'Audiard sur les doutes ne me suffit pas. Ce qu'il disait, les certitudes rendent con, les doutes rendent fou. Et du coup, parce que c'est violent, les doutes, surtout quand on crée une entreprise, est-ce qu'on a raison de faire ça? Est-ce qu'on a raison de travailler comme ça? Est-ce que c'est le bon schéma? Est-ce que, où est la limite? Moi, je me heurte à ça et je travaille avec une psy régulièrement. Ça fait 35 ans. Il y a eu des moments où je me suis reposée. Et puis, il y a des périodes de bien aussi. Parce qu'en même temps, c'est paradoxal. C'est que je suis une femme heureuse. J'ai un mari de rêve. Et j'ai une famille bien. Mais il ne faut pas hésiter à aller voir des psys. Et c'est vrai aussi pour les hommes. À un moment, cette fragilité qu'on a et qui est souvent dominante... Il ne faut pas se cacher toutes ces réalités. On n'est pas des rouleaux compresseurs. On n'est pas si fort qu'on donne la... Voilà, moi, je donne cette impression. Et c'est parce que je suis grande, parce que je suis autoritaire. Tout ça est vrai. Mais je m'en sors parce que j'ai une psy qui m'aide à remettre les choses en perspective.
C'est très important que tu parles de cela parce que ce sont des sujets qui sont généralement tabous, dont en France, les gens n'osent pas en parler. Ce n'est pas le cas des États-Unis, par exemple. Dire qu'il est important de faire un travail sur soi pour y arriver, qu'il est important de faire un travail sur soi pour poser certains bagages, pour mieux se comprendre. Je pense que c'est quelque chose d'essentiel. On ne peut pas changer le monde, mais on peut commencer par se comprendre soi et trouver le chemin qui nous correspond avec tout ce que nous sommes. Et merci d'en parler de manière aussi ouverte. Moi, j'ai été coachée, j'ai suivi des psys, j'avais moi aussi tellement de bagages à déposer pour être plus légère. Je crois que c'est Toni Morrison qui disait que si vous voulez vous élever, il faut savoir déposer certains bagages, parfois qui ne sont même pas les vôtres. Donc si les femmes qui nous écoutent doutent encore, n'osent pas le faire et qu'elles ont les moyens de le faire, faites-le, cela vous sera tellement, tellement, tellement utile.
Et en plus, en France, moi je rajoute, Elisabeth, chose importante, c'est qu'on a la sécurité sociale et qu'on peut se permettre ça. Il y a des psys qu'on ne rembourse pas. Moi, j'ai toujours considéré que c'était, que je n'avais pas à faire payer ça à la communauté et donc par la sécurité sociale. Donc je le fais moi-même. Mais il faut dire aux femmes que, au même titre qu'elles vont chez leur dentiste, qu'elles vont voir leur gynéco, qu'elles vont voir, aller voir même si c'est remboursé par la Sécu, c'est une chance Absolument. Exceptionnelle. Il n'y a pas d'autres pays comme le nôtre.
On a cette chance.
Qui fasse ça. Oui, c'est une chance.
Et c'est d'autant plus important que la charge mentale, le poids psychologique de toutes les difficultés que nous avons rencontrées ces dernières années, en passant par la crise Covid, se retrouver enfermé pendant 2 ans, ça n'est pas neutre sur le cerveau humain, sur notre état psychique et psychologique. Et se faire accompagner quand on le peut, c'est un vrai cadeau. Et tu as raison de le rappeler. On va faire une petite pause pour entendre une femme que je trouve également extraordinaire, une femme qui s'appelle Aline Le Guluche, qui a appris à lire à l'âge de 50 ans. Et je trouve que c'est une force et un courage extraordinaire. Je suis intimement convaincue que l'électronisme d'aujourd'hui, c'est l'illettrisme d'hier. Et je suis curieuse de savoir comment elle vit dans ce monde totalement numérisé, digitalisé.
Alors, le fait de retourner à l'école, c'était une décision que j'avais plusieurs fois dans ma vie, j'ai demandé de retourner à l'école. Parce que je travaille depuis l'âge de 16 ans et donc comme on n'a pas de compétences, on travaille en usine et c'est physique et ça fait mal au dos. Ensuite j'ai travaillé à l'hôpital et là il s'est avéré que mon manque de connaissances pour la lecture et l'écriture, c'était vraiment un frein à mon évolution. Donc j'ai demandé plusieurs fois de retourner à l'école, mais à chaque fois on m'a refusé. On n'a pas compris que je pouvais être illettrée. Voilà. Mais donc il a fallu que je pousse la porte de la DRH à 50 ans et que j'explique vraiment le problème, comme quoi j'étais pas capable d'évoluer et que j'étais frustrée parce que manuellement je faisais bien mon travail, mais aussitôt qu'il fallait prendre un stylo, c'était la catastrophe et je voulais être à l'aise avec ça, un peu plus à l'aise tout au moins. Et c'est ça qui m'a décidé, le mal-être, le besoin d'avancer dans la vie. Quand je suis retournée à l'école, en même temps, j'ai appris à travailler sur Excel, sur Word, pour pouvoir faire un CAP d'hôtellerie que j'ai eu. Et ça m'a permis quand même d'avancer un peu plus, parce que tout est informatisé maintenant. Et quand j'écris plus maintenant avec mon ordinateur, parce que voilà, il souligne en rouge mes fautes d'orthographe, mes inversions de mots, de lettres. Et ça me permet de me projeter un peu mieux, puis de pouvoir me corriger. Plus facilement, je vais chercher un mot dans le navigateur pour pouvoir me corriger, pour pouvoir trouver des synonymes. C'est un combat que je mène à présent, en fait. Maintenant, depuis que je suis retournée à l'école, j'ai découvert que les portes s'ouvraient du bon côté de la route. Je me suis permis de plus avoir honte de mon handicap. Je fais des fautes, ben je fais avec. Je suis l'ambassadrice du programme Écrire son avenir que l'ENCOM a mis en place pour la libération des femmes. Et je suis aussi le porte-parole de la lutte contre l'illettrisme. Mais à ce fait, hier encore, j'étais en Normandie en train de discuter avec des jeunes apprenants. Et il y avait des jeunes hommes, des jeunes filles, et aussi avec des problèmes de dyslexie ou de familiaux aussi, ça peut être un problème familial, l'échec scolaire. Mmh. Et dans leurs yeux, j'ai vu tout de suite la reconnaissance que moi je me dévoile pour que elles puissent se dénoncer avec leurs problèmes et être du coup. Il y en a deux qui ont pris la parole et qui se sont confiés aussi. Et c'était un échange formidable. Et je sais que ces deux jeunes femmes et ce jeune homme, ils vont penser à moi quand ils seront en difficulté et qui diront « Non, faut pas baisser les bras ». C'est comme ça, tout est lecture, tout est écriture. Donc, on a besoin de ça pour ne pas se faire avoir, pour pouvoir être autonome, pour pouvoir lire un contrat, pour pouvoir faire une auto-entreprise. On a besoin d'avoir toutes ces compétences. Et c'est plus qu'un CAP, qu'un métier, c'est tout un tas de compétences. Avant, on avait moins besoin, mais maintenant, c'est devenu impératif. Donc, je leur demande de ne jamais baisser les bras, d'être fiers d'eux. Et puis de continuer à apprendre, ne jamais arrêter de lire et d'écrire, c'est l'important.
Aude, quelle magnifique conversation. Je voudrais parler d'un autre sujet que je sais te tenir à cœur et que nous partageons en commun, c'est l'Afrique. Oui. Tu as créé, il y a quelques années, Women in Africa. Il y a, dans ce que tu fais avec cette association, beaucoup de sujets sur les sciences, les technologies, l'ingénierie et les mathématiques. Mais pas seulement. Pourquoi est-ce que c'était important pour toi de créer Women in Africa?
Alors d'abord, Elisabeth, il est important de savoir que c'est aussi une entreprise. C'est une entreprise et un fonds de dotation. Pourquoi est-ce que je crée des entreprises quand je crée quelque chose comme ça? Parce que quand il s'agit de femmes, et ça c'est un message important que je vais envoyer, le réflexe systématique des entreprises, c'est « Ah ben c'est un projet pour les femmes, donc c'est une association ». Ils n'ont pas le réflexe entreprise quand il s'agit des femmes. Je me souviens, lorsque j'ai créé le Women's Forum, c'était la même chose. Et c'était il y a 20 ans, donc c'était pire. Est-ce qu'on penserait à mettre Vivatech dans un système associatif? Non, c'est une entreprise. Et donc, aujourd'hui, le premier réflexe est celui-là. Quand j'ai créé Women in Africa, c'est pas moi. Alors, je sais que je suis cinglée, hein, mais je ne l'aurais pas fait si elle n'était pas venue me chercher, mes amies africaines. Il se trouve que beaucoup de femmes venaient au Women's Forum. Et... lorsque le Women's Forum m'a quittée, ces femmes africaines ont commencé à me solliciter, et en particulier une femme sud-africaine pour qui j'avais énormément d'affection et d'amitié. Je dis « j'avais » parce que tu vas comprendre pourquoi les choses après ne se sont pas passées comme prévu. Et donc pendant 4 ans, elles m'ont sollicitée en disant « on a besoin de toi, on a besoin de ton énergie parce que tu peux soulever des montagnes, nous notre besoin, femmes africaines ». C'est de faire savoir au monde le rôle que nous avons dans les économies de nos pays et ce faisant l'impact sur la société. Et c'est pour ça qu'elles sont venues me chercher. Et je n'ai pas voulu les entendre, j'étais partie dans une autre histoire, mais cela étant, lorsque le Women's Forum m'a quittée, j'ai fait un burn-out sévère, tellement j'ai aimé faire le Women's Forum. Et je suis partie pour me remettre, comme souvent les femmes, quand on fait un burn-out, j'avais honte. Et pour me remettre de ça, je suis partie, on m'a proposé d'accompagner un groupe d'Américaines dans un voyage en RDC, là où part notre président, dans quelques jours, dans le Kivu, pour rencontrer le professeur Mukwege, l'homme qui répare les femmes. J'y suis allée, effectivement, je suis revenue en France et je n'avais plus de burn-out, tellement j'ai vu les pires exactions on ne peut pas imaginer ce qui se passe là-bas.
C'est effrayant de voir combien les femmes peuvent être utilisées comme des armes de guerre.
Elles sont les pires victimes des exactions, et particulièrement...
Et les femmes sont souvent d'ailleurs les premières impactées par toutes les crises du monde.
Complètement, toujours. Et en revenant, c'est là où j'ai écrit mon premier livre, « Femmes, si vous osiez, le monde se porterait mieux », chez Robert Laffont, et j'ai créé une autre entreprise. Et puis les femmes africaines continuaient à me solliciter. Et malheureusement, et je pense que c'est important aussi dans cet échange aujourd'hui, Elisabeth, que je dise que j'ai eu un gros échec dans ma vie. Je ne suis pas qu'une femme qui réussit.
J'allais te poser la question, parce que c'est vrai que dans le succès, on oublie souvent de parler du sommet immergé de l'iceberg. Il n'y a pas de succès sans échec.
Ouais, moi, j'en ai eu un sévère. J'ai déposé 3 bilans en 9 mois. Et comme j'avais fait un burn-out quelques années avant, j'ai ressenti les prémices de ce que c'était. Donc, j'ai travaillé encore plus avec ma psy et j'ai écrit un livre. Une fois ce travail analytique fait, j'ai écrit un livre sur mon échec et j'ai demandé à un psychologue de compléter ce livre et de parler plus du côté universel de l'échec. Moi, c'était mon histoire personnelle et comme toujours dans ces cas-là, et ça c'est typiquement féminin, je pensais que mon histoire n'allait intéresser personne. Évidemment, ces cas-là, on se flagelle, on se fait mal, on ne pense que négatif, c'est comme ça. Et à ce moment-là, une fois mon livre écrit, celui-là, je l'ai écrit en 2 mois et demi, je crois, toujours chez Robert Laffont, j'ai commencé à écouter les femmes africaines, parce qu'elles savaient que je ne prenais plus personne au téléphone dans cette période de dépôt de bilan qui a été dramatique pour moi et pour ma famille. Et à ce moment-là, j'ai repris contact avec elles, j'ai écouté ce qu'elles voulaient, Et j'ai créé un nouveau modèle économique en me disant, si je fais quelque chose pour les femmes en Afrique, je vais faire, la première chose que je sais faire, c'est un forum. Donc je l'ai fait, il n'y a pas de Covid à l'époque. Et j'ai choisi le Maroc, d'où ma vie en partie là-bas, si j'avais le temps. Et j'ai créé un fonds de dotation avec à l'esprit, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui le plus, de soutenir les femmes entrepreneuses africaines. Parce que plus il y aura de femmes entrepreneuses, et mieux les pays se porteront.
D'autant qu'elles entreprennent en Afrique.
Oui,
les femmes entreprennent extraordinairement.
Mais
elles sont dans l'économie informelle.
Oui.
Donc invisibles.
C'est ça.
Donc non protégées, non accompagnées. Et donc le fonds de dotation de Women in Africa que tu as mis en œuvre, c'est justement pour aider à structurer, cadrer et accompagner ces femmes entrepreneuses.
Alors nous, on ne les aide pas à sortir de l'informel vers le formel, mais aujourd'hui, nous sommes sollicités pour mener ce projet et nous allons y aller parce qu'il faut que ces femmes soient protégées et puis qu'elles contribuent au PIB de leur pays parce que plus les PIB se développeront et plus on a une chance d'avoir la sécurité sociale, l'éducation, enfin les systèmes que nous, dont nous bénéficions, nous, en France, et qui sont exceptionnels et uniques. Et donc j'ai créé ces deux structures et puis le Covid est arrivé, donc on a arrêté le forum et aujourd'hui on a pris le lead. Pourquoi ? Parce qu'on soutient justement ces femmes entrepreneuses, on identifie des young leaders parce qu'un jour, une autre colère, c'était juste avant le Covid, j'étais allée voir notre présidente, Afsat Abiola, qui est du Nigeria, donc je suis allée passer 10 de jours avec elle. Et j'ai vu la colère des femmes qui ont ne donné pas ni les jobs, ni les moyens d'exercer leur travail, ou leurs assos, ou leurs entreprises. Et tout ça, je suis rentrée en France en me disant, mais que de colère, comment est-ce qu'on peut faire? Et
c'est à ce moment-là... Encore la colère qui te porte.
Et c'était la leur que sur laquelle j'ai travaillé, et j'ai créé un programme qu'on a développé grâce à des entreprises françaises et internationales, qui s'appelle les Young Leaders, pour identifier des femmes qui un jour pourraient devenir présidentes de leur pays, ou ministres, parce qu'elles en ont la capacité, totalement, sauf qu'elles sont bloquées. Et donc c'est la colère, et aujourd'hui, eh bien, ces femmes, on reçoit, je ne sais pas, là l'appel à candidature va partir dans quelques jours, on s'attend à en avoir beaucoup. Pourquoi ? Parce que l'année dernière, on en a reçu déjà 3 000, et on en choisissait 8, et on a été reçus par Madame Macron, on a passé 2 heures à l'Élysée. Et certaines ont été emmenées dans l'avion du président à la COP27. Elles ont été reçues au MEDEF, elles ont été reçues partout au Quai d'Orsay, elles ont été reçues par nos partenaires, elles ont suivi des formations.
Comment elles s'inscrivent ?
Sur Internet. Elles vont sur WIA, Young Leader, elles vont sur Internet. Toute
l'histoire. WIA,
oui.
Young Leaders.
Young Leaders, WIA Entrepreneur 54, ça c'est le programme WIA 54, c'est le programme entrepreneurial. On a aussi maintenant WIA Code. On forme au code et ça a été... Et tu sais pourquoi j'ai dit oui ? Juste un petit retour en arrière. C'est parce que quand j'ai mis en place ce modèle économique différent, je suis allée en Afrique pour vérifier si j'avais besoin de me sentir légitime. Et je suis revenue et j'ai dit à mon mari, Je connais la raison, j'ai une raison. C'est que les femmes africaines n'ont aucune envie de migrer ni de voir leurs enfants migrer. Aucune n'a envie de ça. Et donc, à ce moment-là, je me sentais légitime, c'est-à-dire je me sentais portée par faire quelque chose dans le domaine économique, justement. Parce que c'est par l'économie que l'Afrique va s'en sortir. C'est uniquement par l'économie. Et donc, j'avais là une bonne raison de faire. Et puis après, j'ai aussi été attaquée. Parce que j'entendais, c'est formidable ce que vous faites, mais c'est dommage, vous êtes blanche. Parce que c'est dans tous les sens, le racisme.
Oui.
Et du coup, j'ai compris ça, je l'ai analysé. Et j'ai nommé une présidente africaine qui est un bonheur, qui est nigériane. C'est un bonheur. Et j'ai une directrice générale qui était déjà avec moi au Women's Forum. Ça fait 15 ans qu'elle est à mes côtés, Caroline Bouderg. Et Afsat est notre présidente depuis 2018. Et on continue à se développer. Là, en ce moment, on forme des femmes à l'entrepreneuriat par milliers. Par milliers. Nos partenaires sont français, américains, anglais. Et c'est un bonheur. Et là, j'ai eu une nouvelle idée, mais je crois que je ne vais pas leur donner tout de suite, parce que sinon, elles vont me dire que c'est too much. Donc.
Merci, Aude, de rappeler que l'immigration est un drame, d'abord pour les personnes qui sont obligées de partir. Merci de rappeler que ces femmes ont envie de rester
toujours
dans leur pays, avec leur famille, avec leurs amis, et de contribuer au développement de leur pays. Merci de rappeler que quand elles partent, souvent c'est parce qu'elles n'ont pas le choix, et que quand notre vie est en danger, eh bien, on se bat pour pouvoir survivre. Tu as fait tellement de choses dans ta vie qu'on n'aurait pas assez de temps pour les couvrir toutes. Tu nous as parlé de Women in Africa et tout ce que et ce fonds de dotation et ce business model que tu as créé. Tu nous as parlé tout à l'heure de Systemic. Quelle est l'actualité de Systemic? Je crois que tu vas faire un gros événement de lancement dans quelques semaines.
Oui, absolument. Le premier forum aura lieu les 12 et 13 mai au Palais de Tokyo à Paris. En même temps, on annonce une plateforme, parce que le monde ne peut plus se limiter à faire un forum de 2 jours. Il faut aller beaucoup plus loin aujourd'hui et créer une communauté. Et puis, il y a tellement à faire, surtout, qu'il y a à convaincre des milliers, des centaines de milliers de femmes de rentrer dans ces métiers qui seront les métiers de demain. Parce que j'ai commencé par ça. 8 métiers sur 10 ne sont pas connus aujourd'hui. Nous allons faire une liste et publier une étude sur les métiers de demain dans lesquels les femmes pourront trouver des jobs.
Donc 80%, plus de 80% n'existent pas encore. Absolument. C'est dire toutes les opportunités qui existent.
Mais c'est incroyable. C'est un monde qui peut paraître terrifiant parce qu'il y a des ruptures, parce qu'il y a la guerre, parce qu'on est confronté à des outils pour lesquels on n'est pas aussi agile qu'on pourrait l'être. Enfin, moi, j'ai un âge où il y a plein de choses qui me sont difficiles. Je ne connais pas, je ne sais pas, mais j'ai des jeunes à côté de moi et ça se passe bien. J'apprends aussi avec eux. Et donc, on est dans une mutation du monde majeure comme on n'en a pas connu. C'est la 4e révolution industrielle. Et cette 4e révolution industrielle passe par les femmes autant que par les hommes. Et c'est exactement l'inverse qui est en train de se passer. Et c'est ce qu'on dira au forum systémique au mois de juin, au Palais de Tokyo. On va expliquer aux femmes pourquoi on a besoin d'elles. Moi, j'ai le message que je leur dis, c'est le monde a besoin de vous. C'est assez simple. Le monde a besoin de vous.
Ah, c'est exactement la question que j'allais te poser, Aude. Chère Aude, pour conclure cette magnifique conversation, qu'est-ce que tu as envie de dire aux jeunes femmes que tu rencontres, peut-être même à tes filles et à tes petites filles? J'ai l'impression qu'elles sont déjà bien avancées sur la question, mais qu'est-ce que tu pourrais dire à toutes ces jeunes femmes, ou moins jeunes, qui nous écoutent, qui n'osent pas, qui ont peur, qui craignent le « quand dira-t-on », qui craignent l'échec, qui manquent de confiance en elles? Qu'est-ce que tu peux leur dire pour qu'elles aient, elles aussi, envie de contribuer à faire avancer leur place dans la société, la place des femmes dans la société?
Ayez plus confiance en vous. Et si vraiment c'est si difficile que ça, trouvez des regards bienveillants autour de vous. Il y en a. Et il y a toujours quelqu'un qui sera prêt à aider quelqu'un. Pour nous aider, moi j'ai eu ça. Moi j'ai eu le regard de Françoise Zolto, qui a pensé que j'avais quelque chose. Il s'est dit, tiens, cette fille, voilà. Et elle m'a aidée, elle a fait aussi probablement ce que je suis aujourd'hui. Et j'avais 20 ans à l'époque. Donc c'est regarder autour de soi sur qui on peut s'appuyer. C'est quand on crée un projet, c'est oser le voir plus grand, ne pas le faire seul. c'est donc avoir confiance en soi, confiance dans ses idées, confiance dans, ça veut dire aussi dans la vie, même si le monde est perturbé, mais à un moment, soit on meurt sur place, soit on vit, on survit. Pour cela, il faut se battre. Donc c'est avoir une énergie que des gens... Ce que tu fais le 8 mars, c'est exactement ça. C'est que tu vas leur donner... tu vas les questionner, tu vas les intriguer, elles vont s'interroger en sortant de là. Et c'est ça qui est bien, parce qu'elles auront compris qu'elles peuvent oser avoir plus confiance en elles. C'est à un moment aussi, c'est voir plus grand. C'est être dans cette mutation du monde aujourd'hui et qu'elles se disent, demain ne sera plus du tout comme ce qu'on a connu. Comment est-ce que je peux être dans ce demain qui est en train de se fabriquer devant moi? Comment? Et il y a énormément de réponses. Pour ça, il faut lire, il faut aller sur les réseaux sociaux. Enfin, ceux qui sont bien, ils ne sont pas tous dégueulasses, non. Il y en a qui sont bien. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de magazines, justement. Le magazine Chute, c'est ça. C'est regarder, c'est lire, c'est être curieux, ne pas rester dans son coin, ne pas se faire mal tout seul. C'est se faire aider, ça je l'ai dit et je le redirai tout le temps. Se faire aider et se dépasser parce que le monde a besoin de vous, les femmes.
Le monde a besoin de vous, les femmes. Quelle magnifique conclusion. Et Goethe disait, quoi que vous rêviez de faire, commencez-le. Parce que l'audace a du talent, l'audace a de la magie. Et tu l'as merveilleusement bien résumé. Merci aussi de rappeler que ce que nous faisons avec 8 mars, la puissance du lien, c'est rappeler que nous avons tous et toutes besoin de quelqu'un sur notre chemin, quelqu'un qui nous tende la main, quelqu'un qui nous aide à réussir, quelqu'un qui nous accompagne, parce que personne ne réussit seul, et qu'il ne faut pas avoir peur ni honte de demander quand on ne sait pas. Aude, quelle merveilleuse conversation. J'ai une grande gratitude à Chute pour nous avoir permis de l'avoir. Merci d'avoir lancé ce premier épisode de Rôle Modèle à mes côtés. Tu es une belle personne, courageuse, résiliente, humble et continue. Continue de nous épater, continue de construire, continue d'être en colère, cette colère saine qui nous permet parfois de soulever des montagnes. Merci et à très bientôt.
Merci à toi, Elisabeth. Merci, j'étais ravie de cet échange avec toi ce matin. Et oui, parce que le seul message à dire aux femmes, c'est oser, ayez confiance en vous et aidez-nous à construire ce monde en mutation.
Et voilà, c'est fini. Cela vous a plu ? Cela tombe bien. D'autres entretiens de Chute Radio sont disponibles au format audio. Si vous êtes friand ou friande de frissons sonores, rendez-vous sur chute.media, rubrique Chute Radio, pour découvrir l'ensemble de nos émissions. Et si vous souhaitez encourager notre format sonore, n'hésitez pas à nous laisser un avis 5 étoiles et à en parler autour de vous. Merci pour votre écoute et à bientôt.
Vous écoutez Chute Radio. Chute.